Bretagne 5, écoutez la Bretagne. Lecture en liberté, Denis Flagel.
Bonsoir. Dans nos lectures en liberté, je vous propose donc de démarrer cette semaine par le roman de Antoine Blondin, L'humeur vagabonde. Après la Seconde Guerre mondiale, les trains recommencèrent à rouler. On rétablit le tortillard qui reliait notre village à la préfecture. J'en profitai pour abandonner ma femme et mes enfants qui ne parlaient pas encore. Ma femme, elle, ne parlait plus. C'est donc dans un grand silence que je pris le chemin de la gare, par l'avenue dont les platanes venaient d'être émondés. Ces moignons d'arbres ouvraient devant moi un itinéraire d'hiver, rendu sensible par le contraste d'une campagne croulante de feuillage et de grappes. On était à la fin du mois d'août. Je n'avais pas très chaud au cœur. Ma mère, qui habitait une petite maison de veuve à l'extrémité du bourg, était instruite de mon projet et ne le désapprouvait pas. Elle faisait peu de cas de ma femme, estimant qu'une épouse contractée dans les péripéties de l'Exode s'inscrivait au titre des dommages de guerre. Denise nous était arrivée en juin 40 avec un matelas sur la tête. Je n'avais eu de cesse que je ne le lui eusse mis sous les reins. Ce point acquis, nous avions construit un pavillon en meulière autour de ce matelas, entrepris un élevage autour de ce pavillon, dressé des barbelés autour de cet élevage. J'ignorais si je devais me compter au nombre des 2 millions de prisonniers dont il était question. J'étais bien traité cependant, et l'immobilité à laquelle nous étions contraints satisfaisait un canton rêveur de ma nature. Vint l'armistice et, avec lui, nos premières querelles. Il se produisait de vastes mouvements dans le monde qui me mirent des fourmis dans l'imagination. Je crus ne pas aimer la terre, ni ses racines, ni ses silences, mais plutôt les voyages et les villes où sonne minuit. Sous mon enveloppe provinciale, un caprice de bachelier me dictait que ma véritable patrie était autre part. Ma mère avait beaucoup de considération pour ce baccalauréat que j'avais obtenu quelques années auparavant à la faveur d'une session spéciale pour les jeunes moissonneurs. Elle serrait mon diplôme, le seul qui eût jamais sanctionné les mérites de la famille, entre ses conserves de fruits et ses trousseaux de clés. Après l'avoir longtemps ménagé comme une poire pour la soif ou un passe-partout, elle le débusqua, vers cette même époque, sous l'œil indifférent de sa bru, et s'en fit une hache dans le combat qu'elle commença de lui livrer pour mon émancipation. Brandissant ce gage de mes dispositions, elle lui remonta qu'il n'y avait plus d'avenir pour moi dans les clapiers clandestins d'où j'avais tiré mes bénéfices sous l'occupation et que les temps étaient révolus des mariages par inadvertance et de la résistance en peau de lapin. À la longue, son instinct en forme de serpe alla jusqu'à m'ébaucher dans la masse des perspectives d'une carrière parisienne plus conforme à mes humeurs et à ses aspirations, d'où Denise était pratiquement exclue. Contre cette conversion de mon destin et la menace qu'elle suspendait sur notre foyer, ma femme ne se défendit qu'avec une inertie assez désobligeante. Elle venait d'un pays froid et dur, dont les vertus se reflétaient à travers son mutisme, son courage abrupt, son aptitude à prendre pied sur n'importe quel sol, fût-ce le nôtre. Les seules armes dont elle fit usage, j'avais contribué à les lui forger, tenaient dans ce petit garçon et cette petite fille qu'elle appelait tranquillement les orphelins. L'idée de partir ne m'est pas venue d'un seul coup. Elle s'est imposée à la façon d'un lent vertige, comme l'image de sa chute hante l'homme qu'elle fait tomber. Ce furent les matinées où Denise descendait sans me réveiller, les soirs où elle bordait les enfants en négligeant de m'avertir, une réparation qu'on effectua à mon insu, à un chien qu'on vendit pour lequel j'éprouvais de l'affection. Jour après jour, ma femme me relevait implicitement de mes fonctions domestiques, de mes privilèges familiaux, de mes fidélités intimes, comme si son âme méticuleuse se fût exercée à se passer de moi. Chacun de ces gestes qui contribuaient à m'effacer de notre domaine était une invitation au départ. À la fin, il ne me resta plus que le sentiment presque grisant de constater ma propre absence et que cette absence ne laissait aucun vide. Le quotidien allait sans moi. Surnuméraire à l'intérieur de mes frontières. La porte m'était ouverte. Je m'y précipitai. Sous la lumière déclinante de 5 heures, la maison de ma mère paraissait noire comme sa robe. Elle était située après le passage à niveau en bordure d'un sentier qui longeait la voie ferrée et finissait par se perdre dans les champs. Une fenêtre ouvrait du côté des vaches, l'autre du côté des trains. Enfant, je courais de l'une à l'autre. J'ai connu des vaches diverses. Je n'ai jamais vu passer qu'un seul train. Encore ne faisait-il qu'aller et venir jusqu'au soir où il rentrait de soi-même dans sa boîte en bois palpitante. C'était un animal parfaitement apprivoisé. Ce n'est pas de lui que je tiens le goût des aventures. Mon père me l'a légué avec ses livres, ses disques, ses pipes de voyageurs immobiles. Comme il arrive souvent, une grande curiosité des choses lui était venue avec la maladie. Il s'essoufflait à suivre l'actualité, faisait rimer entre elles les capitales aux noms extravagants, ressassait des relations somptueuses qu'il avait entretenues dans sa jeunesse. Mais je ne l'ai vu se déplacer qu'une fois, pour aller au cimetière, porté par d'obscurs partenaires de manille qui ne pleuraient que d'un œil. Par la suite, ma mère m'avait élevé dans le culte de Paris, où j'étais né sans m'en apercevoir, et qu'elle m'apprenait à travers des cartes postales, des almanachs, des plans du métro. Elle-même y avait vécu en 1919, le temps de connaître mon père et de s'en faire aimer. Elle était vendeuse dans un grand magasin du centre où Étienne Laborie s'occupait de publicité. On disait qu'il y avait beaucoup d'avenir dans cette branche pour les jeunes gens fortement décorés. Le héros de Verdun n'avait pas perdu tout son flair sous le masque à gaz. Quand un retour d'Hypérite l'eut contraint à cesser la moindre activité, il trouva à son chevet une compagne dévouée à ses gilets thermogènes comme elle l'était la veille à ses vestons d'alpaga. Ils se retirèrent dans cette région de Charente, d'où ils étaient plus ou moins originaires l'un et l'autre, et s'y alitèrent en remâchant de sourdes revanches sur le sort. Devenue veuve à 30 ans et privée de boulevard, ma mère ne s'était jamais tout à fait résignée à ne plus connaître que les succursales de la vie. Dans le bourg, nous passions pour des gens furtifs et réservés, toujours prêts à s'en aller, le cœur ailleurs. On ne nous savait ni riches, ni pauvres, ni fonctionnaires, et c'était irritant à cause des préséances. On n'aime pas les francs-tireurs du bonheur, surtout lorsqu'ils manquent leur coup. Denise, qu'on appela Madame Laborie, jeune, ou Madame Benoît, rassura d'emblée par sa pesanteur tranquille, sa simplicité. On apprécia qu'elle fît bâtir, défricher, fructifier, qu'elle offrit au jour des enfants et des veaux, qu'elle ajouta au patrimoine commun sans regarder plus loin. Elle était du parti de la terre. C'était sans doute ce qui expliquait tout. Moi, je me sentais seul, incertain de mes vocations, partagé entre l'orgueil et l'humilité. Je n'avais plus rien à dire à mes camarades de l'école communale, ceux qui auraient pu devenir mes conscrits, mes prochains. Nous nous étions séparés lorsque j'étais allé poursuivre mes études à Angoulême. Et de sursis scolaire en sursis agricole, je n'avais jamais rejoint l'armée. Mes amitiés les plus assidues, je les tirais de l'auberge où je faisais la partie de quelques mauvais sujets du voisinage, des garçons affranchis et oisifs, fraîchement démobilisés pour la plupart, en qui je retrouvais sous l'écorce grossière une désespérance sœur de la mienne. Quand Denise revenait du bocage gorgé que je désertais peu à peu, portant la rosée du crépuscule dans sa cape de bergère, elle n'avait pas un regard pour cette fenêtre éclairée derrière laquelle je me tenais attablé parmi les réprouvés en sabots. Alors l'un d'eux lançait d'une voix qui faisait tourner les têtes « Tiens, voilà ta femme qui rentre !» Je répondais « Laisse rouler !» avec un rire faux dont ils daignaient me rendre la monnaie entre leurs dents. Cet instant où je frôlais la bouffonnerie conjugale était ma contribution tremblante au cynisme de leur jeu. Ce n'était pas sur moi pourtant, mais sur Denise, que j'attirais ainsi le mépris des célibataires. Le jour que j'en pris conscience, ma résolution de sortir du cercle se trouva confirmée. À quelque temps de là, invoquant je ne sais quel méchant prétexte, je bouclai ma valise. Trop de livres, pas assez de linge. Denise devina que c'était le bagage d'un émigrant. Derrière ses volets entrouverts, ma mère pouvait maintenant apercevoir le couple que nous formions, Denise et moi, sous l'avenue de la gare. Sous le regard des autres, dans l'accord de nos pas réglés sur le landau où nos enfants dormaient, nous offrions encore l'illusion de l'harmonie. Seule, ma mère se disait, avec un tremblement, « Cet homme et cette femme désunis qui s'avancent, c'est mon fils qui quitte ma bru. »
Il a du cœur, il aime la vie et
Lecture en liberté, Denis Flagel.
Antoine Blondin, l'humeur vagabonde. Denise avait décidé qu'elle m'accompagnerait jusqu'au passage à niveau. Mais son visage fermé me signifiait de n'avoir pas à me méprendre. Elle n'agiterait pas son mouchoir. Par un détour de sécheresse ou de pudeur, nos adieux lui étaient un but de promenade entre beaucoup d'autres. Elle me laissait me dépêtrer de la tendresse ambiguë de cette fin d'après-midi et se refusait à en partager le déchirement. Droite, sur ses hautes jambes précises, des jambes d'arpenteur, elle appartenait au paysage et à toutes les saisons d'une vie simple et calme. Je comprenais qu'elle préférerait toujours les biens étalonnés à mes eldorados de derrière la tête. Elle était seulement déléguée dans ses vêtements bourrus pour me confirmer que mon village continuerait sans moi. Un nuage passa, plombé de chaleur. Je pensais que l'aube du lendemain serait bonne pour la pêche et la valise me parut lourde. Je m'arrêtai pour la changer de main. Denise me distança sans y prêter attention. Déjà, elle atteignait la barrière blanc et rouge. Je vis avec un mélange de détresse et de soulagement se rapprocher l'échéance de notre séparation. Le demi-tour qu'elle amorça avec ostentation nous mit face à face. C'était un cap difficile à franchir. « Je vais te laisser là, Benoît, » dit-elle fermement. Mon prénom, rejeté au bord du silence, me parut solennel. Il vibrait entre nous comme s'il eût été vraiment le mot de la fin. Ne sachant que répondre, je me penchai pour bénir le front de mes enfants d'un pouce confus. Denise s'interposa vivement. Elle n'aimait pas mes démonstrations qui ne prouvaient pas grand-chose. « Ne les réveille pas, » dit-elle. « Ce serait dommage. » « Je leur donne un an pour s'apercevoir de ton absence. » 2 pour s'en étonner, 5 pour en souffrir, 10 pour s'en ficher. Tu as le temps devant toi. Et moi, qu'est-ce que tu me donnes pour réussir ? Phrase faible et imprudente pour qui se voulait déjà un nomade du cœur. Le plus dur n'était-il pas fait ? Je départageais mal ce qu'il entrait de remords ou de regrets sincères dans cette concession. Heureusement, Denise n'avait plus grand-chose à me donner. « Ça ne m'intéresse pas, » répondit-elle. « Je suis bien ici et Paris me fait peur. »« Mais tu ne connais rien du monde. J'aurais voulu te secouer un peu, toi aussi. »« C'est fait, » dit-elle sur le ton d'une grande placidité. « Ne crois pas que je te vois partir avec satisfaction. » Quels orages domptés masquaient cette réprimande de maîtresse d'école. Un seul cri et je l'eusse pris dans mes bras. Tu comptes faire des démarches ? Quelles démarches ? Consulter un avoué, par exemple ? Elle marqua un mouvement de recul, puis chassa ses balivernes d'un geste. Chaque chose en son temps. Le fait certain, c'est qu'il va falloir que je trouve quelqu'un. Je ne fus pas atteint trop brutalement. Denise ne laissait affleurer aucune trace d'impatience, aucun venin profond. Elle exprimait plutôt une résolution comme on en inscrit sur son agenda. Nos mœurs étaient lentes. Leur code imprégnait trop ma femme pour qu'elle s'abandonnât à l'urgence d'une intrigue par représailles. Le protocole du village, son œil attentif, ses oreilles gloutonnes, ne l'eussent pas admis. Quelqu'un ? Ça ne serait peut-être qu'un homme de peine. Quelqu'un pour m'aider à tout. J'eus un pâle sourire qui la fit scier. « Allons, » dit-elle. Nous nous embrassâmes trois fois sur les joues comme des cousins sans enthousiasme. Je la regardais s'éloigner vers des tâches prévisibles. Elle poussait sa voiture d'enfant comme une charrue. L'univers qui se refermait sur elle n'était plus le mien. Je devais, par la suite, me répéter souvent qu'elle n'avait rien fait pour m'y retenir. Je me sentais dédouané. En somme, es-tu bien sûr que ce ne soit pas elle qui te mette dehors ? Demanda ma mère. Je ne savais pas encore. L'expédition ne commençait vraiment que dans la pénombre de cette chambre, écluse entre le passé et l'avenir, qui sentait le gâteau sec et le sirop de prune. Ma mère achevait de ficeler divers objets où je reconnus les offrandes propriatoires destinées à me concilier les grâces de Paris. De la pâte de coin, un drageoir fourvoyé chez nous que j'aurais belle contenance à restituer à un cousin lointain, comblé de distinction et de mépris. Un poulet. Je ne veux pas débarquer avec un poulet. Mais par exemple, s'indigna-t-elle en allant au volet qu'elle rabattit avec éclat, comme pour faire toute la lumière sur ce qu'elle avait à me révéler, à savoir que les Parisiens constituaient un peuple famélique et méfiant, plein de convoitises pour les produits de la ferme, et que ce petit poulet, authentifié par une touffe de plumes au croupion, se joindrait avantageusement à mes diplômes pour m'ouvrir de larges portes. Par exemple, si ça avait été la chasse, tu aurais emporté des perdreaux. « Je t'ai roulé ton parchemin dans ce tube de carton, » ajouta-t-elle, « ne le perds pas en route, et veille à ce qu'on ne te le vole pas. » Je considérais le fusil de mon père accroché au mur dans sa gaine de cuir neuve. Il l'avait acheté en arrivant ici avec des gypsières et des cartouchières, bien qu'il n'eût guère de chance de s'en servir jamais, parce qu'il était décent qu'un homme de son âge et de sa condition possédât une arme et un chien. Nous faisions toujours bien les choses et toujours comme il faut. Nous ne nous embarquions pas à la légère. Ainsi, je me trouvais chargé de dons, sorte de Père Noël de province, libre de les répartir au gré de mes bonnes fortunes, à ceux qui me convieraient à dîner, la volaille, à celles qui m'inviteraient plus simplement pour le thé, je disais encore le goûter, la pâte de coin enrubannée ou le pot de fleurs. Cet azalé délirant autour de son tuteur avait été apporté à mon intention par notre jardinier Gustave. Ma mère m'expliqua que les fleurs coûtaient cher à Paris, où elles servent à véhiculer des sentiments subtils. Je l'avais souvent lu dans les livres, mais j'éprouvais pour la première fois qu'il ne suffit pas de se baisser pour les ramasser. Pour cette raison, et parce que j'escomptais avoir de nombreux sentiments à exprimer, je consentis à m'encombrer de ce fragile fardeau. « Fais tes visites en arrivant, » dit ma mère. « Ne tarde pas trop à cause du poulet et montre-toi bien convenable, bien digne. N'imite pas ton pauvre père. » La première fois qu'il est arrivé à Paris, il était tellement saisi qu'il n'a pas arrêté de pleurer. Pourtant, il portait des moustaches. Ça te prouve que quand on est sensible, l'extérieur n'y fait rien. Toi, qui as l'air parfois si dur avec moi, je sais que tu m'aimes au fond, mais tu ne pleureras pas, toi. Ça n'est pas pareil. Tu as ça dans le sang, c'est nous qui te l'avons donné. Et il est certain qu'avec ton bachot, ta place n'est pas ici. Sans la guerre et sans ta femme, tu serais peut-être déjà... Quoi donc ? Bon, je ne sais pas, moi. En tout cas, tu serais heureux. Ma mère avait le souci de mon bonheur. Elle se tourmentait plus que de raison à mon propos. Elle s'imputait des responsabilités amères dans les échecs et les mélancolies vers lesquels je penchais depuis quelque temps. En revanche, elle s'associait avec démesure à mes moindres joies, les prenait en main, les soufflait comme du verre jusqu'à me les rendre. Pour mon évasion, je crois que son rêve eût été de la partager, tout au moins de venir me rejoindre sitôt que j'aurais fait ce qu'elle appelait mon trou. Le mot m'horripilait par lui-même. J'aspirais à de larges carrefours, non à la retraite croupissante. La perspective d'y traîner ma mère me semblait de surcroît monstrueuse. Certes, je l'aimais. L'isolement et la nostalgie avaient établi entre nous cette complicité du songe que la venue de Denise n'avait su entamer, la renforçant peut-être. Nous avions en commun un bout de terre promise. Mais l'état de couple sous lequel elle espérait parfois que nous irions l'habiter m'inspirait une panique étrange. Loin de s'offusquer de cette attitude, ma mère l'accueillait avec la résignation exubérante d'une martyre dévouée aux caprices d'un jeune dieu farouche et exquis. Elle passait son temps à découvrir que j'étais devenu un homme pour l'oublier l'instant d'après. Je ne sais lesquelles elle préférait des circonstances où elle s'ingéniait à me protéger ou de celles où il lui fallait se garder de mes blessures. « Je t'ai laissé faire beaucoup de bêtises, » dit-elle. « En un sens, je ne me le pardonne pas. Mais la vie ne nous a pas facilité les choses. Nous aurions dû retourner plus tôt à Paris. » Je n'avais guère les moyens matériels, puis j'avais scrupule à abandonner ton père à l'indifférence, aux mauvaises herbes. Ce sont des idées de femmes seules qui ne concernent pas la jeunesse. Je me disais que tu nous vengerais un jour. Bon, cette petite Denise n'est pas la méchante fille, elle a ses mérites, mais elle t'a retenu ici, et je me demande même si elle ne t'a pas supplanté. Maman, Denise va prendre quelqu'un. Elle releva la tête, quitta la table à ouvrage où elle me consolidait un bouton, me saisit les mains. Je pus déchiffrer sur son visage une contrariété qui me gêna. En savait-elle plus long que moi ? « Cette bûche, dit-elle, grand bien lui fasse. Il y aura du travail pour la faire flamber. » Elle se forçait à sourire, mais je voyais à de certaines lueurs sombres qu'elle accumulait déjà les éléments d'un dossier. Tu crois donc, toi aussi, que ça veut dire ça ? Demandai-je, en affectant d'y apporter un détachement de tacticien, comme si j'eusse tenu un tour en réserve. Je crois surtout que ce n'est pas le moment de souffrir. Pour ma mère, c'était rarement le moment de souffrir. En vieillissant, elle s'en était remise à une conception du malheur en bloc où les peines de détail ne l'égratignaient guère plus que les ronces au jardin. Elle n'était vulnérable qu'à travers la tendresse immense qu'elle me vouait. « Je ne souffre pas, » dis-je. « Il ne manquerait plus que cela, » répondit-elle. « Je ne le supporterai pas. « Si tu savais quelque chose, tu me le dirais ?»« Je te le jure. » Comme elle m'avait juré qu'on ne mourrait pas de la coqueluche, que mon père reviendrait un jour, que je ne grandirais jamais si je fumais en cachette, beaucoup de certitudes de la connaissance et celle de l'amour achoppent sur le même mot. J'insistais. « Les petits, qu'est-ce qu'ils deviendraient là-dedans ? Nos petits ?» Nous leur épargnerons ton enfance sauvage. D'ici à ce que nous montions tous ensemble pour recommencer à vivre entre nous, il n'y a peut-être pas très loin. Cette fois, je ne le pris pas pour un projet, mais pour un gage de consolation. C'est pourquoi je lui répondis de bon cœur, « Sans doute, et tâchons de nous faire honneur. » C'était notre vieille formule de courage il y avait longtemps, que nous ne nous étions dit des choses semblables. Voilà donc pour ce soir le début de ce roman de Antoine Blondin, L'humeur vagabonde, que nous retrouverons demain. Cette émission a été réalisée par Frédéric Guyon et vous pouvez la retrouver en podcast sur le site de Bretagne 5, bretagne5.fr. Bonsoir.
Pour réécouter les émissions de Bretagne 5, rendez-vous sur bretagne5.fr.